Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour, c'est le mercredi 19 mars à Marseille sur Radio Galère. Et bah oui, il fait un peu frais, le printemps ne se décide pas, il nous manque vraiment un vrai soleil, mais tant pis, il nous manque un engagement au fond. Alors samedi 22 mars, pour l'engagement, je vous envoie Porte d'Aix à 14h, engageons-nous, re-engageons-nous contre le racisme et contre le fascisme. C'est la journée mondiale contre le racisme et le fascisme. Liberté, égalité, papier. Et ça sera sans quelques-uns de Radio Galère, parce que nous, à Radio Galère, samedi, nous avons notre Assemblée Générale d'Association. Et c'est important, bien sûr. Bah oui, les radios libres, c'est important pour la parole libre et le fonctionnement de Radio Galère en tant que radio libre. Ça passe aussi par notre Assemblée Générale, par nos discussions, par nos projets. Donc, on vous envoie en masse à la Porte d'Aix, puisque nous serons un certain nombre à être à la friche dans notre Assemblée Générale. Et aujourd'hui mercredi 19 mars, disais-je, c'est Dominique, oui, au micro, avec Marie-Aude, puisque Françoise est toujours en famille à Paris, et Zélie à la technique, merci. Avec aujourd'hui un livre de femmes, de filles même, un roman tout simple de Nelly Slim. Le titre de ce livre, c'est « Entre ici et avant, il y a la mer ». Donc « Entre ici et avant », ben oui, c'est un récit tout simple, vous disais-je, autour de la Méditerranée ou sur les deux rives de la Méditerranée. Cette mer chère à nos cœurs de Marseillaises et de Marseillais, et aussi cher à nos cousins africains du Maghreb et du Sahel. Donc c'est vrai que cette Méditerranée, elle nous relie, elle nous sépare, et quelquefois elle sépare douloureusement, oui, on le sait, puisque un certain nombre de personnes franchissent la Méditerranée dans la douleur. Mais c'est aussi un trait d'union que montre bien au Mucem en ce moment l'exposition qui s'appelle Méditerranée. Méditerranée avec un S, Méditerranée au pluriel, mais surtout Méditerranée comme un trait d'union entre les peuples qui entourent cette mer et qui partagent leur culture. Alors pour revenir à la Méditerranée du roman, la Méditerranée donc du livre de Nelly Slim, « Entre ici et avant, il y a la mer », eh bien c'est un roman à deux voix. Celle d'une petite fille qui vit son enfance en Tunisie et qui vient en France. Donc la deuxième voie, c'est celle d'une jeune femme qui vient étudier en France. Elle vient sans drame, comme une étudiante ordinaire. Et les deux voies du roman mettent bien en opposition les deux moments de sa vie. Et quand même une sorte de mélancolie, de tristesse qui se glisse quelquefois entre l'enfance et le jeune âge adulte, parce que, c'est aussi ce qui fait que le roman est attachant. Sous la vie ordinaire, il y a justement cette mélancolie de l'exil, dans un pays qui en plus méprise le pays d'enfance. La France méprise par bien des côtés, on le voit à travers des camarades d'études, à travers des personnes rencontrées, que souvent les Français méprisent, oui, ces pays du Maghreb, ces pays qui, pour Nelly Slim, sont les pays d'avant la traversée. Et entre ici et avant, il n'y a pas donc seulement la mer, il y a quelquefois la fracture qui est ressenti justement du fait de ces mépris des anciens colonisateurs pour les anciens colonisés, qui semble toujours être à la traîne d'un développement et même d'une consommation. En quatrième de couverture, l'éditeur a choisi un extrait du roman de Nelly Slim qui dit bien à certains moments, et qui dit à un moment en particulier, ce mépris ressenti par la jeune femme de la part de ceux qui l'entourent. « Je suis du sud, faible et navrant, et je ne peux me hisser à la hauteur de la France qu'en apprenant à consommer comme eux, à rire comme eux, à parler comme eux, à user du mépris poli et du sourire crasse. Je dois observer, regarder, apprendre, intégrer et recracher dans une bile lisse, propre et inodore. Il faut oublier la mloukia de Mima, dont l'odeur empreint les murs pendant plusieurs jours. La mloukia, elle tache les habits et laisse des traces indélébiles. Donc là, il faut l'effacer. » Oui, cette Mima dont il est question, c'est la grand-mère du personnage principal. Et cette grand-mère, bien sûr, elle fait la cuisine, oui, bien, enfin, disons, chez elle. Et puis, elle garde des habitudes de cuisinière, de couturière, dont la jeune fille, une fois arrivée en France, se dit qu'il faut qu'elle s'en détache précisément. Alors nous allons vous lire à deux voix les récits du quotidien de cette petite fille et de cette jeune femme qui cherche à Paris, si elle veut être parisienne, qui cherche aussi à mener une vie différente, en particulier avec les mouvements féministes qu'elle ne connaissait pas avant. Et puis il y a dans le roman, sans doute pour évoquer les gouffres de la mer, une référence sous-jacente mais assez permanente à l'univers des abysses, aux êtres bizarres qui peuplent les profondeurs. Notre héroïne a trouvé ou acheté, je ne sais pas, une encyclopédie de la vie des profondeurs. Et de temps en temps, dans son roman, elle nous fait part d'une de ses découvertes sur précisément la vie dans les abysses. Donc il y a une petite référence encyclopédique qui perce quelquefois dans les sensations du personnage principal. Et cette encyclopédie, elle est toujours à ses côtés en guise de compagnon de route. Donc c'est pour ça que de temps en temps, il y a un petit moment encyclopédique sur les êtres des profondeurs qu'elle nous fait partager. C'est quelquefois assez rigolo. Alors, je commence avec donc la voix de notre héroïne à Paris dans une manifestation. Sally est grande. Plus grande que la majorité des personnes que je connais. Elle est très fine, presque maigre, et elle a les yeux bruns. Ses joues osseuses lui donnent un air sérieux, démenti par le sourire qui tranche son visage en deux. Mais il faut le mériter, le sourire de Sally. En manif, elle agite rageusement les bras et accompagne les slogans de sa voix puissante. C'est là que je la vois pour la première fois. Le 25 novembre, Sally remonte la rue de Ménilmontant. Une écharpe couvre soigneusement son menton et son nez jusqu'aux yeux. Elle s'échappe de la foule, longe le mur d'un pas vif. Son blouson à cuir noir s'entr'ouvre sur des clavicules saillantes. La pluie légère qui obscurcit le ciel l'atteint à peine. Ses gestes sont rapides et furtifs quand elle sort la bombe de peinture et tague en grosses lettres rose fluo « La peur doit changer de camp ». De quel camp parle-t-elle? Je ne sais pas exactement, moi qui ai atterri dans cette manif sur les talons de quelques copines de fac qui, martèlent à tout va que c'était vraiment important d'être là, mais sans préciser pourquoi. Les manifs, j'en avais déjà vu à la télé. Là-bas, sur l'autre rive, l'écran me montrait des scènes de foule, des plans sur les rues noires de monde et de grands drapeaux avec toujours les mêmes sigles. PS, PC, CGT... Ici, tout au plus, des banderoles peintes à la hâte sur de grands draps blancs et des phrases sur des bouts de carton brandis au bout de bras, des slogans personnels. Les silhouettes se pressent les unes contre les autres, les corps s'élancent sur le bitume, je pressens un truc massif, crucial, quelque chose qui va bouleverser ma vie. La peur doit changer de camp. Je respire un grand coup et j'emboîte le pas à Sally. mon bras se tend vers elle, presque sans que je le décide. Je fais un signe de la tête dans sa direction. Ses bottes s'arrêtent sur le trottoir mouillé et pivotent vers moi. Je lui lance « T'as besoin d'aide ? » « Tu sais faire quoi ?» Sa voix est basse entre ses dents serrées. Je pince mes lèvres. « Pas grand-chose. » Un léger silence, elle m'évalue du regard. Je me sens rougir. Je regarde par terre, mais son visage s'orne d'un sourire qui révèle des canines tordues. Elle fouille l'intérieur de sa veste, me tend une bombe de peinture violette. « Allez, viens !» La bruine s'est arrêtée. Un vent glacial a pris sa place. Les rafales nous giflent les joues, les yeux de Sally pleurent de froid au-dessus de son écharpe. Et autour, tout le monde grelotte. Elle grelotte, frissonne, oui, mais personne ne se décourage. « Nous sommes fortes, nous sommes fières !» La foule scande les slogans sans perdre en intensité. Les passants se retournent sur elle. « Et féministe, et radicale, et en colère !» Elles brandissent le poing, rageuses. Les visages affichent la fermeté de celles qui ne se laisseront plus faire. Ma poitrine se gonfle. Il y a un espace dedans qui se remplit et se dilate. Un espace dont je ne connaissais pas l'existence avant ce soir. Sur les talons de Sally, je ne fais qu'une avec toutes celles qui chantent. Je les accompagne dans un filet de voix timide. La manifestation se termine dans le brouhaha. Suivre Sally m'a fait perdre de vue les filles de la fac avec qui j'étais venue. Les voix autour de moi sont enthousiastes. Tout le monde se regroupe en grappe sur la chaussée malgré le froid. Autour de Sally, tout le monde se presse. Elle fume clope sur clope, l'air concentré. Et sur ce que chacune lui dit, elle a une réponse. Certaines ont les cheveux colorés, d'autres des piercings et presque toutes des Doc Martens. Toutes ont des jeans noirs ajustés qui s'arrêtent au-dessus de la cheville. Elles se connaissent, elles font de grands gestes, elles rient, elles parlent fort. Elles fredonnent les slogans de la manif. Il y en a même qui sortent des canettes de bière de leur sac à dos et les ouvrent en un pchit, rock. Sally a un look soigné. Tout est noir, du jean au blouson. De loin, je remarque un tatouage sur ses doigts, mais je ne distingue pas les détails et je n'ose pas vraiment m'approcher. Les manifs avant, je n'en avais jamais vécu. Ça me semblait lointain comme concept. La France, le syndicalisme, le mécontentement. J'entends encore la voix de Mima. Ah, oh, toujours en train de râler. Ils ne savent rien faire d'autre. Maintenant que c'est fini, je ne sais pas comment me comporter. Ma proximité fugace avec Sally me paraît un peu absurde. Elle est vraiment cool pour moi. Mon exaltation est éteinte, le constat est sans appel. Je tripote les manches de mon manteau. Je suis gênée par une espèce de... Oui, une gêne familière. Hé, hey, tu fais un truc après ? Sally m'a interpellée, je rougis malgré moi. Rien de spécial, non ? Elle me prend le bras. « Tu viens, on va boire un coup juste à côté. » Et sans me laisser le temps de répondre, elle se met en route, mon bras toujours coincé dans le sien. Je tente d'aligner mon pas sur le matériellement de ses bottes. Je manque de trébucher sur le trottoir, je ne sais pas quoi dire. J'écoute la foule et les pas pressés sur le boulevard. « Ouais, c'est ça. J'étais bien avec Sally, mais il y a des jours, je suis à la fac et c'est moins bien. » Les pas, ils vont et viennent aussi sur le sol carrelé de la salle de cours. Et la voix du prof, la voix continue, elle est tonitruante. Oh, jeune homme, nanana, un sourire satisfait ponctue le bruit sec du livre qui se ferme. Sur la couverture jaunie, le titre est écrit en grandes lettres rouges. Alors, qui peut me parler de ce moment de la littérature, de cette œuvre fondamentale ? Demande le prof à la cantonade. Les orientales. Il secoue la tête, admiratif, pour appuyer ses propos. Le bruit de l'horloge m'agace. La voix du prof m'arrive d'un peu loin. Sur la table devant moi, une feuille à carreaux, je fais mine de noter. Je fis mine de noter ce qui la scène en moulinant des bras. Et pour ne pas laisser mes paupières se fermer, de temps en temps, je me pince à l'intérieur du bras. La douleur me saisit juste assez pour écarquiller mes yeux et me maintenir éveillée. Je rêve de poser ma tête sur la table et de m'endormir, bercée par l'ambiance studieuse de la salle. Après la manif, 3 pintes bues à la chaîne hier, et puis couchée à 2h du matin. Et ce matin, il fallait aller à la fac à 8h. Ben voilà, maintenant, je le paye. J'étais une élève investie au lycée. Mes bulletins disaient tous combien j'étais discrète mais motivée. Ça se sent, ça se voit. Félicitations. On me donnait des bonnes notes. Les profs étaient français souvent et ils m'appréciaient. Je rêvais de pantalons retroussés aux chevilles, de cheveux bien rangés et du petit air d'Occident, de ceux qui ont toujours été du bon côté de la frontière, enfin toujours du bon côté de la mer. Je rêvais de laisser derrière moi la mer Méditerranée. Pourtant, dans cette salle de classe, je m'ennuie. Le prof nous assène de grandes vérités sur les œuvres littéraires du patrimoine français. Il se gargarise du savoir dont il nous fait grâce et nous traite comme si on était en primaire. J'ai envie d'être dans la rue, moi, de regarder les vitrines, de détailler les visages des passants, de lire les affiches, les panneaux, les plans aux arrêts de bus, de dévorer des gâteaux lus, des aiguillettes de poulet origine France, des croissants au beurre et des tartelettes au citron meringuées. Tout sauf rester coincé dans cette salle au mur jaune poussin défraîchi à écouter les déblatérations du prof. Mais je n'ai pas le choix. Alors je rêvasse dans les tréfonds de ma torpeur. Ça fait 2 ans que je suis arrivée à Paris. Mais Sally est la première rencontre intéressante que je fais. J'ai sûrement l'air ingrate en disant ça. Et c'est vrai, je me suis fait quelques potes, des copains, des copines de fac au gré des soirées étudiantes. Je sors en boîte, je bois des coups à République. Mais je n'ai pas réussi à me décoller de la peau cette sensation poisseuse de solitude, de tristesse, un truc sans fond, vaguement dégueulasse. La vie m'étouffe. Le soir, je rentre en métro, je repense à ma journée et j'ai la sensation confuse que je ne fais jamais le plus important. Il y a quelque chose que je rate, qui m'échappe obstinément. Une voix dans ma tête qui me répète que je passe à côté de la vie. Je ne crois pas que je souffre. Souffrir impliquerait un investissement quelconque. Non, je laisse disparaître en fait les choses dans ma poitrine et je ne ressens pas grand-chose finalement, à part l'ennui, à part que, en effet, je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Et elle défile devant mes yeux et je me demande ce que j'attends vraiment. Et cette pensée fait naître un besoin irrépressible de combler un vide. Un vide, mais comment ? Les stroboscopes des boîtes de nuit couplés aux shots tequila fraise gratuits pour les filles me permettent au moins de passer le week-end, mais c'est tout. En cours, stylo à la main, je fais mine de noter, toujours les mêmes auteurs, les mêmes exigences, les mêmes bonnes notes pour les mêmes élèves, mais moi, le nez sur ma copie, je sue abondamment sans pouvoir me rappeler ce que pourtant j'ai révisé la nuit précédente. En attendant le métro, je lorgne les rails. Il faut calculer son saut, se lancer quand le tunnel s'éclaire et commence à trembler. Dans un grand geste, s'arracher le cœur, laisser le soin au conducteur de savoir quoi faire de la traînée sanglante et incongrue qui giclerait sur les vitres. Ah, boulevard de Strasbourg, je passe devant l'armurerie et je questionne un vendeur sur le choix à faire pour avoir le moins mal. Il me dévisage bizarrement. Par la suite, je détaille simplement la vitrine pendant de longues minutes. Je liste les possibilités. Ciseaux, médicaments, sacs plastiques, couteaux, cordes ou simplement avaler de travers. La mort peut arriver comme ça, quelquefois. Donc oui, elle n'est pas très réjouie, notre héroïne qui a traversé la Méditerranée. Elle n'est pas très réjouie d'être à Paris. Et cette fameuse rencontre avec Sally, c'est ce qui va mettre vraiment quelque chose de différent dans sa vie. Mais avant de nous parler de la suite, eh bien, elle va nous raconter comment c'était en Tunisie.
Zeynep court sur le bord de la route. Elle a contourné l'école primaire, traversé le petit pont sous les arbres et espère rattraper le bus. Je cours derrière elle essoufflée. Les voitures nous sifflent dans les oreilles et mon cœur me fait mal à force de marteler contre mes tympans. Les yeux lubriques des hommes suivent la peau de nos ventres qui se découvrent dans la course. Je les maudis en silence, mon regard fixe. « Zeynep, s'il te plaît, ça sert à rien, on l'a raté. » J'allaite. Elle s'en fout, rien n'arrête son sprint. Sa silhouette est de plus en plus lointaine. Elle est comme ça, je la connais, quand elle a un objectif, elle fonce. J'en viens à me dire que si je n'étais pas là, ce serait pareil. Mais pas question de la laisser courir seule. Du coup, pour la rattraper, je cours à m'en décrocher un poumon. Quand j'arrive enfin à l'arrêt, elle me regarde triomphante depuis le marchepied du bus jaune. Je l'ai retenue pour toi. Elle me souffle. Allez, monte vite. Arrivé à la Houma, au quartier, on a encore un peu de temps. Le bus a fait vite. Pour Zeynep, un coca, pour moi, un jus de fraise ultra sucré. Je suis vraiment fâchée, me dit Zeynep en soufflant dans sa paille. Ah ouais, carrément fâchée. Tu fais pas les choses à moitié, toi. Je la taquine, l'air de rien. Je sais déjà qu'elle va me donner un coup de coude en me regardant par en dessous. C'est son regard noir, celui que j'aime le plus. Zeynep ne s'énerve jamais. Au plus, elle s'agace et marmonne des phrases inaudibles que le vent chaud de septembre emporte loin vers la mer. Je ne sais pas jusqu'où on peut monter le volume de sa voix. Je ne lui connais qu'un ton égal, un débit de speakerine qui fait la météo pour le 20h. Allez, Zeynep, fais pas la gueule, raconte. Sa mère ne veut pas qu'elle sorte ce soir. Pour son bien, elle a dit. On rigole. La mère de Zeynep, elle a peur de tout. Elle ne veut pas qu'elle aille à des fêtes, ni qu'elle rentre trop tard du lycée. Elle ne veut même pas la laisser dormir chez des copines. Elle garde son emploi du temps collé au frigo avec des manettes moches. Et quand ça fait une demi-heure qu'elle a fini son dernier cours et qu'elle n'est toujours pas rentrée, elle l'appelle sur son téléphone pour l'engueuler en lui disant combien elle devrait avoir honte de l'inquiéter autant. Zeynep a capté la technique maintenant. À la rentrée, elle trafique l'emploi du temps. Elle rajoute des cours de 17h à 18h, des exposés au CDI et gratte une heure de liberté. Mais ce soir, c'est pas pareil. C'est la fête de fin d'année. On attend ça depuis des semaines. Je souffle, exaspérée. On va trouver une stratégie. Un truc 100% crédible. Je te promets, elle se doutera de rien. Je sais pas. On peut dire que moi non plus, je vais pas à la soirée et que tu restes avec moi au café de mon oncle. Zeynep hausse les épaules. Mais bien sûr, genre elle va y croire. Je te dis, c'est mort. Tu me raconteras. N'importe quoi, je rétorque. Je vais pas te laisser devant la télé avec ta mère, impossible. Ce soir, on sort, c'est tout. Zeynep esquisse un vague sourire, mais je vois bien qu'elle ne me croit pas. Elle me dit au revoir d'une main molle. Sa petite robe d'écolière bleue foncée bat la mesure de ses pas sur ses chevilles. Moi, je sais que je vais y arriver. Zeynep, c'est la chair de ma chair, mon sang, ma famille. Je me dis tout le temps qu'on aurait dû naître dans la même fratrie. Mais après, je pense à sa mère et je me dis non merci. Zeynep a les yeux très noirs et des jambes fines qui virevoltent sous des robes sages. Elle est la voix qui me dissuade de faire des bêtises et en même temps, celle qui les inspire. Sur la route sablonneuse, soupir bruyant. Zeynep avance, concentrée devant moi. Je presse le pas jusqu'à rejoindre son visage fermé. Ma mère va me tuer, elle bougonne après un silence. Mais non, elle se rendra compte de rien, tu verras. Et puis, sinon, on dira que j'étais malade et que j'étais appelée à l'aide en urgence. Elle lève un sourcil, l'air de dire. Tu crois vraiment qu'elle va gober ça? Le crissement de nos chaussures redeviennent le seul bruit alentour. Je traîne mes pieds, juste pour le plaisir de voir la terre se soulever, former un amas de poussière en suspension, puis retomber au pas suivant. La nuit est compacte. Il n'y a pas d'air. Le mois de juillet n'offre pas de répit à la chaleur. Avec Zeynep, on s'est rencontrés pour la première fois quand on était toute petite. J'avais 6 ans, ou 5, ou 7, c'était ma voisine. Ses parents habitaient au 2e étage et moi au 4e. Le samedi, je dévalais les escaliers délabrés de l'immeuble et on jouait à cache-cache dans le square juste devant. À l'époque, je n'appelais pas cet endroit un square, déjà, parce que cela aurait fait beaucoup trop d'honneur à cette juxtaposition d'immeubles, de gazons, de routes et de chemins goudronnés. Leur somme constituait cet espace dans lequel nous jouions, C'était largement suffisant et ça avait l'avantage d'être juste devant chez nous. Surtout, je ne connaissais pas ce mot. Personne ne l'utilisait, personne n'appelait de l'herbe et un chemin goudronné un square. Un jour, Zeynep a déménagé. J'ai arrêté de lui parler et puis elle est revenue. Le sable forme autour des jambes de Zeynep un halo flou. Elle est furieuse, je le vois. Forcément, elle m'en veut. Je lui avais promis un mensonge intergalactique, un truc 100% crédible. Mais j'ai eu beau me creuser la tête, je n'ai rien trouvé du tout. À court de subterfuges, je l'ai aidé à faire le mur une fois sa mère endormie. Quelle galère! Elle était même pas bien, la fête de fin d'année. Les filles qui minaudent et font des messes basses dans leurs robes fanfreluches, les garçons empruntés dans leurs chemises mal repassées, rien de nouveau. Et nous, déguisés en sorcières, les yeux charbonneux et la bouche barbouillée de rouge à lèvres, armés chacune d'un grand balai subtilisé pour l'occasion. Ils nous ont tous regardés comme si on était des aliens. Qu'est-ce que c'est ennuyeux, les filles fanfreluches et les garçons en chemise.
Eh ouais, donc la fête était ratée, mais au moins elles ont eu le plaisir de faire le mur ensemble. Et Zeynep, bah, effectivement, c'est quand même un grand souvenir de cette enfance en Tunisie, de cette enfance que donc notre héroïne regrette toujours, même dans son, comment pourrait-on dire, dans son habitat parisien ou dans sa vie parisienne, où elle n'a pas non plus trouvé grande satisfaction. Alors avant de continuer sur précisément sa vie parisienne et puis quelques petits moments croustillants des racistes ou des mépris de la vie parisienne justement, on va mettre une musique qui, je l'espère, va vous plaire. Je l'ai choisie parce qu'elle fait partie de la bande son du film Un divan à Tunis. Alors Un divan à Tunis, vous avez peut-être vu le film. Moi, je l'ai vu parce que d'abord, j'aime beaucoup Golshifteh Farahani. Mais c'est vrai que le film avait vraiment des côtés intéressants, précisément pour montrer ce décalage entre une jeune femme occidentalisée et puis la vie traditionnelle qui continue à Tunis pour précisément bien des filles et bien des femmes. Et j'ai choisi donc dans la BO une musique qui exprime ce grincement, cette juxtaposition grinçante en tout cas des vies tunisiennes et françaises. Donc on va laisser la place à Luli and the Surfing Rogers. C'est pas très oriental, mais quand même, il y a des petites choses qui dérapent de temps en temps. À tout de suite.
Nothing better.
and the Surfing Rogers pour une espèce de décalage, surtout dans le clip entre la campagne française et un genre de faux orientalisme un peu bizarre, mais toujours dans le divan à Tunis. Donc le divan à Tunis qui reprend là aussi ce décalage un peu grinçant entre France et Tunisie. Et à ce niveau-là, je vais vous lire un petit extrait où précisément notre héroïne se retrouve dans un bar chic et vous allez voir ce qui se passe. Sally m'a donné rendez-vous au bar à vin où elle travaille. Après un long silence, un message d'elle à qui j'ai répondu dans la minute. Et en fait, même si une fois le SMS envoyé, je me suis sentie bête d'avoir réagi comme ça, il aurait fallu bien sûr laisser passer un peu de temps, avoir l'air plus nonchalante, faire comme si cette attente n'avait pas été pénible, douloureuse même. J'étais tellement ravie qu'elle me rappelle. Quand je franchis la porte, elle est là, les sourcils froncés sur son téléphone, derrière le comptoir. Elle porte un haut en dentelle et un jean serré, le tout intégralement noir, comme toujours. Elle lève les yeux de l'écran et me fait un grand sourire, enthousiaste. « Viens, viens, viens !» Je me hisse sur l'une des chaises en hauteur disposées le long du comptoir. Autour, il y a des fauteuils club, des canapés, le tout éclairé par des spots de lumière tamisée, des voix qui chuchotent. Et derrière Sally, des bouteilles alignées qui ont l'air plutôt chères. Elle me fait un clin d'œil en me sortant une bouteille de derrière les fagots, comme on dit, un cadeau de la maison. Nos verres s'enchaînent. Ça me rappelle les bars des hôtels de là-bas, ceux dans lesquels quelquefois j'allais. L'hôtel Africa, le Plaza, le Dar El Gelt. C'était les seuls endroits où on pouvait boire de l'alcool, à condition de s'habiller bien pour y entrer. Les clients, des hommes vieux et moustachus, en costume, nous jetaient des œillades pendant qu'on sirotait nos Bloody Mary. Ici, je siffle les verres de vin de Sally sans y connaître grand-chose. Je n'aime pas le vin et pas vraiment le rouge. Mais Sally me raconte sa vie comme si on était amis depuis des années et je rêve de ce moment. Je rêve de ce moment qui ne s'arrête jamais, en fait. Et je n'hésite plus avant de répondre. Le vin, quand même, c'est bien. Je rebondis sur ses blagues. J'apprends qu'elle souffre encore de sa dernière rupture, que son ex l'a larguée le jour de son anniversaire. C'était vache. Et puis, à un moment... elle balance des vannes comme ça. Pourquoi cette meuf aussi belle, cool et sûre d'elle montre-t-elle de l'intérêt pour quelqu'un comme moi? La question me taraude, mais peu à peu, ma voix prend de l'ampleur, je prends de l'assurance, je ris fort, elle aussi. Et quand elle sort fumer une cigarette, je vois les regards agacés autour de moi. Il y en a qui me dévisagent vraiment. Et je m'absorbe dans la contemplation des bouteilles alignées. Mais les yeux sont hostiles, les sourcils froncés, les mines ennuyées, pour me signifier que manifestement, depuis une heure, on les dérange et qu'on aurait mieux fait de se taire. Ils n'ont même pas besoin d'ouvrir la bouche, d'ailleurs. J'ai leur voix dans la tête, je connais trop bien les accents parisiens pointus et les bonnes manières de ces gens-là. Vous savez, quand elle revient ? Me demande un homme à lunettes posté près du comptoir. Je repense à mon encyclopédie des fonds marins. Quel poisson ce serait, lui ? Et son menton, en même temps, fait un signe vers Sally qui fume dehors. Vous savez quand elle revient ? Le dos tourné à la vitre. Je secoue la tête, je jette un coup d'œil. Et le mec continue. C'est pas pour vous embêter, non, mais enfin, vous savez quand même. Il sourit poliment. Dans votre pays, vous devez avoir l'habitude de parler fort, je comprends, je me rappelle. Je suis allée au souk à Marrakech, c'était la cacophonie. Et ça fait partie du folklore là-bas, non? Mais ici, il faut que vous compreniez, on est quand même plus calme. Les gens viennent pour se relaxer après leur journée de travail. Mes joues brûlent. Je ressens une espèce d'éclair fulgurant, impossible de penser, je bredouille... Et c'est juste le temps qu'il faut à Sally pour se glisser derrière le comptoir et prendre la commande du client. Il se penche vers elle et d'un ton confidentiel, mais assez fort pour que j'entende, il lui susurre « Vous savez, mademoiselle, c'est bien mademoiselle. Mademoiselle, il faut être plus sélectif à l'entrée. Vous êtes dans le 8e arrondissement ici, pas à Barbès. » L'image m'apparaît clairement. Cet homme, c'est le poisson lion. Ben oui, il a des nageoires venimeuses et il n'a pas vraiment de prédateurs. C'est un danger réel en termes de piqûres. La bouche de Sally se tend comme un trait rigide. Sa main tremble légèrement quand elle verse le verre que le client a commandé avec un sourire. Après son départ, un silence s'installe. Sally tend le bras et recouvre ma main avec la sienne. « Allez, meuf, j'ai fini mon service dans une demi-heure. Après ça, on se casse. » Je hoche la tête, mais la honte est restée là, cuisante. Elle est dans ma poitrine. Je la fais taire à coups de verre de vin, dont le goût âpre me fait involontairement grimacer à chaque gorgée. Poisson ou créature des plateformes continentales, vivent dans une pénombre spectrale à de grandes profondeurs, dans une obscurité totale. Et ce jour-là, nous avons rendez-vous à Bobigny. À Bobigny, le jour a laissé place à une nuit épaisse d'hiver. Et ces hivers du Nord, c'est terrible. On franchit la barre de 0 degré, je ne m'acclimaterai jamais. Je repère tout de suite le petit groupe serré autour de Sally dont les cheveux bruns, tenus en queue de cheval, dépassent du reste des têtes. Elle doit faire 1m75, 1m80. Tout le monde est habillé en noir, capuche sur la tête, basket aux pieds. Je détonne avec mon manteau rouge et mes ballerines. Je vois les sourcils froncés quand je m'approche, mais Sally me tend la main et me fait entrer d'autorité dans le petit cercle. Je distingue enfin les lettres tatouées sur ses doigts. « Bash, back ». Riposte en anglais. Les capuches murmurent quelque chose à propos d'une vengeance, de rendre justice nous-mêmes. L'une des filles s'appelle Naya. Elle relate sobrement le procès d'un violeur. Les langues claquent de désapprobation. Aucune charge n'a été retenue. Et finalement, le type il s'en est tiré comme ça. On n'a pas cru la parole de Naya. Les têtes hochent. Elles ont toutes l'air de savoir de quoi elles parlent. Ben, je hoche la tête, moi aussi, par mimétisme. « T'as amené les bombes de peinture ?» C'est Naya qui s'adresse à moi. Mon cœur bat à 1000 à l'heure. Je réponds « oui », dans un souffle. Elle a l'air satisfaite. Le groupe se dirige vers un arrêt de bus bien visible en face du tribunal. « Il va falloir faire vite », murmure Naya entre ses dents. « Elle est où, la bombe ?» Ses yeux noirs me cherchent depuis sa capuche. Je sors de mon sac les 2 bombes que j'ai achetées chez le roi Merlin. Naya fronce les sourcils, interloquée. « C'est tout ce que t'as ?» Je ne comprends pas. Le groupe s'esclaffe. Hey, « Hé meuf, t'es sérieuse ?» Les rires me donnent envie de me faire toute petite et de me cacher. Là, dans un coin du trottoir, je regarde Sally. Je sens presque les larmes monter. Elle chuchote. « Mais regarde, c'est du vernis à bois ce que t'as amené. Pas de la peinture !» Je ravale péniblement les torrents qui menacent de couler de mes yeux. J'ai l'air assez débile, mais bon, finalement, elle ne se moque pas davantage. Mes mains se tordent sous mon manteau. Un silence s'installe et puis elle jette des coups d'œil et elle me sourit. Elles ont l'air de comprendre, finalement, sans avoir à ouvrir la bouche. Leur corps semble lié par une force invisible, tendus les uns vers les autres. Et quand l'une se frotte le visage du plat de la main, les autres l'imitent machinalement. La vue de leur complicité m'est difficilement tolérable. Mon regard se plante par terre, je divague sur les bancs de poissons auxquels je pense. Et grâce à leurs multiples paires d'yeux, ils détectent le danger, eux, mais moi pas. Ils passent l'alerte et ils réagissent rapidement, mais moi pas. Je me rappelle d'une page de l'encyclopédie qui dit que faire partie d'un groupe empêche les prédateurs de se focaliser sur une proie précise et assure la survie de l'individu. Ben oui, c'est ça. Naya s'approche et me prend par les épaules. Allez, meuf, c'est pas si grave. On va aller prendre une canette et puis on te montrera hein, à quoi ça ressemble une bombe de peinture. Voilà, donc notre héroïne commence à se faire sa place dans la bande de Sally et à être à l'aise avec ces jeunes femmes libres qui vivent en noir et qui bombent dans les arrêts de bus quand, bien sûr, elles ont la peinture ad hoc. Mais revenons à l'enfance, revenons à la Tunisie et quelques souvenirs de sortie de lycée.
Zeynep sort deux sucettes, une pour toi, une pour moi. Elle me dit en les répartissant avec sérieux. La sucette est rouge vif avec un emballage, ma préférée parce qu'à l'intérieur, il y a un chewing-gum. On fait un petit chin avec les sucettes et on les met dans nos bouches. Dans sa famille, ils ne font pas de chin en entrechoquant les deux verres, mais dans la mienne, si, je lui ai expliqué. On prend notre temps jusqu'à l'arrêt de bus. Il fait vraiment trop chaud pour se presser. L'air est sec, presque rêche sur la peau, et les palmiers se dressent, pointus, le long de la route bitumée. La sueur dégouline sur mes côtes, Zeynep raconte sa journée de cours, moi la mienne. On se plaint du prof de maths qui nous a encore donné trop de devoirs. Elle me parle de sa mère, comme d'habitude. L'après-midi a un goût de fraise chimique et acidulée. À l'arrêt de bus, Zeynep finit sa sucette. Je jette un bâton en plastique blanc à la poubelle. Moi, je ne suis pas encore arrivée au chewing-gum. Ma langue fait le tour du globe rouge. Il s'amenuise au contact de ma salive. Chez mon oncle, personne ne jeûne. Mais bien sûr, on ne le dit pas. Les gens parlent. Faudrait pas que ça se sache dans la Houma. Oui, bien sûr, il y en a plein comme nous qui ne jeûnent pas, qui font semblant, qui n'y connaissent plus, qui n'y croient plus, ou qui sont fatigués. Mais tout le monde s'est mis d'accord de ne jamais, jamais en parler. Alors, on va dire qu'on jeûne, d'accord ? Chez mon oncle, on boit. Du vin, blanc surtout. Des bières, celles qu'il y a décapsulées ou briquées. Ça trinque, on fait chin. Avant de porter le goulot à sa bouche. Ça parle fort, ça descend des petits verres de bourra à l'arrière du café en mélangeant à l'arabe à des mots français déformés par les palais avinés. Parfois, ça gueule le soir, ça rigole surtout. Chez mon oncle, il y a du passage. Les clients sont habitués. Ils jouent aux cartes en fumant le narguilé. Le café prend l'odeur des effluves de chicha pomme, chicha menthe, chicha melon pour les plus audacieux. Il y a des femmes qui rient fort et des hommes qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Ça tape du poing sur la table pour ponctuer ses idées. Ça n'est pas d'accord, mais seulement entre les quatre murs de la salle orange foncé. Les tentures absorbent le bruit. Dehors, il y a la dictature. À ce qu'on dit, sous les bâtiments du ministère de l'Intérieur, des opposants politiques sont emprisonnés.
Eh oui, des opposants politiques sont emprisonnés. Donc, il est certain que chez l'oncle, en effet, on a conscience de ce qui se passe autour de ce que vivent les gens dans leur quotidien. Mais peut-être que, à l'époque, notre héroïne, elle, ne se rend pas trop compte de ce qui se passe. Elle a une, enfin, on pourrait dire un sentiment diffus, un sentiment confus de ce qui l'entoure. Elle vit surtout au jour le jour sa relation avec Zeynep et puis les jours au lycée et puis les jours chez sa grand-mère, ou plutôt les soirées chez sa grand-mère, en effet. Et elle revoit tout ce qui se passe autour d'elle lorsque elle vit ses moments préférés avec Zeynep.
Avec Zeynep, notre passe-temps préféré, c'est le jeu avec les noyaux d'abricot. Une fois qu'ils sont secs, on les empile en petits tas de 3 ou 4 sur le sol et on les dispose sur une ligne imaginaire. Le jeu, c'est d'en garder un dans la main et de bien viser pour que la pyramide s'écroule. On passe de longues minutes à examiner, soupeser, faire rouler les noyaux entre nos doigts pour choisir le plus dense, le plus lourd, celui qui nous permettra de pulvériser le plus de pyramides. Souvent, je fais exprès de mal viser pour laisser Zeynep gagner. J'aime la voir sautiller, un sourire ravi sur les lèvres.
Au restaurant, invité par les parents de ma colocataire, je mange pour la première fois de la blanquette de veau.
Je me souviens, avec toi, on rigolait beaucoup en répétant « blanquette de veau » sans jamais en avoir mangé. Ça nous paraissait tellement infâme et éloigné de ce que nous connaissions. Le mot n'existait pour nous qu'à travers un texte de notre manuel de français et sa sonorité même sonnait étrangère à nos oreilles. On visualisait des carcasses de viande surnageant dans un ragoût marronasse et nos visages affichaient des expressions de dégoût ravi.
Alors, tu manges pas ? La voix de ma colocataire interrompt ma rêverie. Son regard interrogateur me fait prendre conscience que, la cuillère à la main, je fixe le mur depuis plusieurs minutes d'un air absent. Eh oui, quelquefois le décalage est grand entre les souvenirs et la réalité française, mais il y a dans ce décalage une espèce de nostalgie qui persiste. Et cette nostalgie, tout de même, elle s'efface quand, de nouveau, notre héroïne rencontre Sally. Sally m'invite de plus en plus souvent. Des fêtes, des réunions, des actions militantes. Sa vie est foisonnante et elle m'y fait une place, simplement, comme si j'avais toujours été là. Elle respecte le fait que je ne l'invite jamais chez moi. Elle ne me questionne pas là-dessus. Elle comprend entre les lignes que je préfère être chez elle et elle m'accueille dans son antre. 20 mètres carrés d'affiches collées à la pâte à fixe qui laissent des traces rondes et grasses, des piles de vêtements paresseusement juchées sur des poufs et qui attendent d'être menées à la laverie, et puis un balcon duquel on peut observer une grande partie de Paris. Je m'habitue à l'odeur de clope, aux miettes de tabac ou aux miettes de pain dans le lit même, à la musique constante de clubs underground berlinois crachés par l'enceinte démesurément grande posée près du canapé-lit ouvert en permanence et prêt à accueillir nos corps fatigués par la fête. Le matin, l'une réveille l'autre à coups de confidences, d'analyse de la soirée de la veille. Et puis Sally se lève pour lancer le café et songeuse, je détaille les nuances du ciel sous la couette râpeuse. La nuit n'a pas la même odeur ici. Là-bas, de l'autre côté, elle sent le jasmin, le sable et les pots d'échappement. Elle sent les pieds qui traînent et les voix d'hommes. Elle n'est jamais complètement noire. Le ciel reste en suspens, teinté d'une couleur violette. Ce qui me manque le plus, c'est la moiteur. L'atmosphère lourde, chargée d'eau et d'excitation, l'air enfin respirable, les hordes de gens dehors. Ici, ce n'est pas pareil. La nuit sent la ville et l'alcool. Elle sent les manteaux chers, les parfums sucrés, le maquillage impeccable. Ici, la nuit est lisse et ordonnée. Chacun chez soi, mais quand on est dehors, ça reste calme. Il n'y a rien à espérer de la nuit. Ou alors, la nuit exhale la possibilité qui glisse le long des doigts d'une éphémère euphorie, une bouche de métro dans la nuit noire striée par l'éclairage public. Les rares à être dehors parlent fort quelquefois ou poussent des cris désespérés pour qu'on les regarde. Mais ensuite, ils se laissent comme glisser dans le silence, comme le reste. Donc finalement, les sensations qui sont fortes à Paris, c'est une espèce de règle permanente, une espèce de règlement qui s'étend jusqu'aux soirées. C'est assez bizarre. On aurait pu penser qu'avec Sally, les soirées deviennent folles, mais pas forcément. Je ne sais plus comment décrire ma vie aux gens qui demandent. Mes colocataires, bien sages, mes vagues amies que je me suis faites depuis 2-3 ans, je ne sais pas quoi leur dire. Il y a eu un covoiturage désastreux pendant lequel le conducteur m'a bassiné pendant une heure sur mon français sans accent, son amour du couscous, son téléphone volé par un arabe dans le métro. Donc je n'ai vraiment plus la patience de la relation avec ces gens-là. Certes, dans les soirées auxquelles j'allais, les corps étaient blancs, minces, et ils avaient la confiance de ceux qui avaient toujours vécu là. Mais moi, j'ai toujours senti cette fêlure qui ne nous unit pas et qui, évidemment, ne me soulage pas. Alors, à ces gens-là, je ne parle pas non plus de Sally. Et je me cache pour aller la voir, je mens sur... mes relations, sur mes passe-temps. Parce que finalement, tous ces gens-là, ils sont précieux, jolis, ils sont bien habillés, ils font des découvertes sur les mots, sur le monde extérieur. Mais tout cela, non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et hors de question que je continue comme ça. Tu sors encore ce soir ? Ben oui. Mes collègues, ça ne les choque pas, l'état du monde. Que la police tue des jeunes dans les banlieues, que les technologies de surveillance se multiplient et que les prisons soient surpeuplées, peu importe, tant qu'ils peuvent aller boire des coups le samedi soir dans des bars bondés, tranquilles. Depuis qu'avec Sally, je découvre une rage qui ne s'éteint pas, il me devient de plus en plus insupportable de fréquenter les gens qui s'affolent très relativement de la montée de l'extrême droite ou du temps qu'il fera pour leurs prochaines vacances. Finalement, à leurs yeux, je suis une anomalie dont ils sont poliment curieux. Mais avec Sally, après les manifs, on danse jusqu'à 5h du matin, on roule d'appel à des inconnus, on rentre bourré avec le premier métro et on s'écroule dans le petit clic-clac de son petit studio. Bon, bien sûr, je vais toujours en boîte, mais je vois vraiment pas l'intérêt de me faire draguer par des mecs qui me payent des verres juste pour pouvoir me pleuter en faisant semblant de voir que je suis une étudiante sage et souriante qui supporte les blagues lourdes, etc., etc. Les blagues lourdes, non, vraiment pas. Alors, voilà, je préfère la vie avec Sally et j'ai appris que quelquefois, les gens qu'on a cru aimer nous déçoivent. Leur estime se transforme en silence, en évitement, en regard étonné et en messe basse. On assiste impuissant à leur dégoût, mais toujours à leurs humiliations mesquines. Alors je préfère ne pas prendre le risque. En mai, je suis allée avec mes colocs prendre un verre. Mais au début, la bière, bien sûr, descend rapidement et le temps passe et je m'ennuie et les conversations sont plates et me ramènent à quoi ? À ma vie d'avant ? Oui, ça parle d'une série que je ne connais pas. Et puis, ils s'étonnent d'une femme tatouée des pieds à la tête et ils font des blagues sur elle et un peu plus tard même sur le sans-abri qui vient nous demander quelques pièces. Mais moi, je ne ris pas. Et alors il roule des yeux. « Ah, c'est bon, détends-toi !» Dans ce bar, j'étouffe, à force de jouer le jeu de cette normalité barbante. J'écris à Sally, elle a dérobé. « Hé, avec qui tu discutes comme ça ? Bon, allez, ça va. Pas besoin d'envoyer des messages sous la table, montre-nous. » Mais non, bah les pattes, c'est mon territoire. Et puis je les plante là. Je les plante là, oui, pour aller retrouver Sally. Je sors du bus à côté de chez elle. Je marche à grands pas sur la route, plongée dans l'obscurité. La lune me regarde. Je crois qu'elle approuve mes chemins de traverse. À ce moment-là, il devient clair que je suis échappée et que je ne reviendrai plus. L'été, j'ai quitté la colocation. Alors je vais de lit en lit, de studio en studio. Il y a chez Judith, à Jussieu. L'appartement est petit, ensoleillé. Mais assez vite, j'ai quand même pris quelques remarques acides et il a fallu remercier chaleureusement et s'en aller quand même ailleurs. Un vendredi, Melvin m'a invité chez lui pour dîner. Est-ce que c'est bizarre ? Je me pose la question en marchant à grandes enjambées sur les pierres inégales, rondes et polies, à la sortie du métro Porte de la Chapelle où se trouve son nouvel appartement. Il me pose beaucoup de questions. Il veut savoir où j'en suis, ce que je fais de ma vie, mes projets. C'est un artiste qui colle ses travaux dans la rue. Il m'a toujours impressionnée. Je suis flattée qu'il s'intéresse autant à moi. Le vin rouge m'aide une fois de plus à être moins timide. Je parle. Je le vois curieux, attentif, sincèrement content. Alors, à demi-mot, je me mets à raconter mes sorties, mes rencontres, les autres filles. Il trouve ça super. Il m'en demande plus. Je me détends. Peut-être que je vais enfin pouvoir me confier. Et puis, en retour, Melvin se confie aussi, mais accoudé à sa table, il cherche des mots et il me dit qu'il est triste. Il cherche mon regard pour confirmer que j'écoute. Et 22h30, il me demande si... oui, enfin bon, je réponds, je m'en mêle, je rougis, je n'ai pas envie de parler. Il fait de plus en plus chaud, le studio est petit, j'étouffe, mon sourire se crispe. Où est passé le copain ? À la place, c'est un homme comme les autres. J'évite son regard, je fixe le mur d'en face. 23 heures, de grandes mains puissantes se baladent un peu partout sur mon corps et ma peau se hérisse. J'ai peur. Bah, tu veux pas un massage ? Non. Minuit, je ramasse mes affaires à la hâte pour prendre le dernier métro. Et quand je passe la porte, il me dit « T'es sûr que tu veux pas rester ?»« Bon, bah, une autre fois alors, un ciné, autre chose. » Enfin bon, écoute, quand même, les filles comme toi, allumeuses, et puis qui finalement veulent pas, ça va, quoi. Ah oui, d'accord, ça va. Non, ça va pas. Alors, où est-ce que je vais pouvoir trouver la sortie entre mes souvenirs de avant et les sorties avec Sally ? Eh bien, je vous le dirai peut-être la semaine prochaine. J'espère qu'elle vous a plu, l'histoire de Nelly Slim, enfin son histoire entre ici et avant, il y a la mer. J'envisage en effet de vous faire une petite deuxième partie, pourquoi pas, pour savoir ce que devient notre héroïne. Vous avez remarqué, elle n'a pas de prénom. Il y a juste les prénoms des autres, les prénoms des interlocuteurs. Alors, est-ce qu'elle va vraiment devenir quelqu'un et trouver la sortie ? On verra ça bientôt. Et en attendant, samedi, tous à la Porte d'Aix à 14h pour la Journée internationale contre le racisme et le fascisme. À bientôt, bonne semaine.
Here's a song that comes from Tanzania.